Pebble Red.
Et bonsoir à tous, c'est Georges, vous écoutez Purple Rain sur Canal B, on est en direct jusqu'à 20h avec Kat, salut.
Salut.
Et avec Binge, mais il est très occupé.
Il est bien occupé là sur le son. Ouais.
Comme vous le savez, Binge réalise le live de cette émission chaque semaine entre 19h20 et 19h35 à peu près.
Il n'entend pas du tout, là il réagit même pas.
Et là il est en train de remixer, de perfectionner le mix puisqu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a fait et que les conditions ici sont un peu précaires parfois.
On fait avec, c'est ça.
Et voilà. Comme chaque semaine, donc il y aura du live, vous l'avez compris, et on va parler d'un artiste, enfin d'un groupe rennais qui vient de sortir un album. En l'occurrence, ce soir, c'est The Soap Opera. Alors, un soap opera, à la base, Kat, c'est une série radiophonique ou télévisée, sponsorisée, voire produite par des fabricants de lessive. Romance, situation mélodramatique, l'archétype du soap opera, c'est... Voilà, par exemple, Amour, Gloire et Beauté. Mais bon, Soap Opera, c'est aussi le nom d'un album du groupe anglais The Kinks. C'est pas vraiment l'album le plus représentatif des Kinks, c'est le moment où ils essayent aussi l'opéra rock après leurs compatriotes des Who quelques années plus tôt. En tout cas, à l'écoute de nos invités de ce soir, on pense plutôt aux Kinks, période 66-70, qu'à Amour, Gloire et Beauté, ça c'est sûr. The Soap Opera réalise une pop très bien orchestrée, avec même quelques cordes pour ajouter un vernis bien classe à l'ensemble. Mais avant de se lancer dans la pop, The Soap Opera a émergé d'une nébuleuse psychédélique. Trois d'entre eux œuvraient auparavant dans ce qui est, pour moi, un des groupes rennais les plus marquants de ces 15 dernières années, Sudden Death of Stars. The Soap Opera ont sorti le 9 juin dernier leur nouvel album intitulé Who Ate the Last Funny Oreo. On écoute un extrait avec The Clouds Are Laughing at Me. On se retrouve juste après. Night sky full of stars. Remind me of you. How very silly of me, looking up and high. Never know what to do. Paris is nowhere to be found.
See through. They're laughing at me now, shaped like dinosaurs. Even triceratops. Thy hint of buzzing from my strawberry scent. Coming from the
Bonsoir The Soap Opera.
Salut.
Alors vous êtes quatre.
Nous sommes quatre, bonsoir.
Il y a Pierre-Marie que vous venez d'entendre. Michel.
Hello.
Salut. Xavier.
Bonjour.
Et Valentin.
Bonsoir.
Ravi que vous soyez parmi nous. L'album il s'appelle Back on Tracks et pas du tout Who Ate the Last Funny Oreo, comme je l'ai dit par erreur.
C'est pas grave.
À l'instant, oups, mes excuses. Donc vous avez, il y avait un noyau dur hein, dans ce groupe, je l'ai dit juste avant, il y en avait trois qui se connaissaient. Et Michel, qui n'était pas dans ce Dundas of Stars.
Non, un peu le...
Mais où a-t-il été dégoté, ce Michel?
Comment a-t-il été recruté?
Ben, c'est un peu par hasard, c'était un bar, hein, comment dire, où... en fait, on s'est croisé avec Pierre-Marie, avec lequel on se connaissait depuis très longtemps. On avait joué un peu, parce que je jouais dans Betty Ford Clinic, pour les vieux Rennais... qui se souviennent peut-être de ce groupe, qui est encore sur les rails d'ailleurs. mais donc voilà.
MySpace donc, Damier Noir et Rouge, quand j'étais au lycée.
Voilà, c'est MySpace Damier Noir et Rouge, c'est ça. Et bah voilà, en fait, on se connaissait depuis longtemps, on était copains, on se croisait au concert. Et puis voilà, un beau jour de septembre 2016, me semble-t-il, je croise Pierre-Marie qui m'a proposé de joindre le groupe. Et parce que voilà, et avec grand plaisir, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les Soap Opera.
Et qu'est-ce qui t'a encouragé à les rejoindre? Ils t'ont fait écouter quelques morceaux ou...
Oui, bah oui, j'avais écouté un petit peu ce qu'ils avaient fait, et puis après on se connaissait aussi avant. Et puis le côté un peu pop, puisque c'est vrai que moi j'ai plus une culture, on va dire, rock'n'roll, noise rock, etc. Et puis c'est vrai que c'était super cool pour moi aussi de développer un peu ce côté-là, puisqu'à côté de ça, j'adore aussi, je suis un grand fan des Beatles, de plein de trucs pop aussi. Et donc c'était super aussi de les rejoindre pour apporter aussi cette touche peut-être un peu plus punchy de mes groupes précédents. Et puis aussi moi, m'adoucir un peu, on va dire.
Michel, c'est notre caution rock.
Et justement, comme tu disais dans l'intro, Georges, il y a trois personnes qui étaient avant dans Sudden Death of Stars. Qu'est-ce qui a... Enfin, le chemin jusqu'à The Soap Opera, en fait, c'était quoi votre envie? Vous avez envie de quelque chose de peut-être un peu plus lumineux, un petit peu plus pop, je sais pas. C'était quoi le chemin entre ces deux projets? Parce que pourquoi vous n'avez pas continué le groupe d'avant, finalement?
J'ai toujours eu envie de... C'est Pierre-Marie qui parle. J'ai toujours eu envie de faire un groupe de pop un peu... on appelle ça C86, d'ailleurs inspiré par les labels Sarah Records, le premier Primal Scream, tous ces trucs-là. J'ai toujours envie de faire ça, et en fait on l'a fait pendant Sudden Death of Stars, mais du coup c'était un peu... c'était vraiment un side project. C'est-à-dire que le premier disque, on l'a fait très vite. C'était quelque chose de plus récréatif. Et il se trouve que Sudden Death of Stars s'est terminé. Et du coup, Soap Opera, c'est devenu un peu notre groupe principal. C'était un peu le joujou. Et là, on s'est dit, bon, bah là, on va faire ça un peu. Pas mieux, mais en tout cas, on va s'investir un peu plus. Et voilà.
Et vous avez sorti un premier album en 2017, c'est ça, à peu près?
Ouais.
Le nouvel album Back on Tracks qui est sorti cette année, 6 ans pour le faire. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans pour que vous mettiez autant de temps, je vais dire? Enfin, peut-être que le prochain sera en 2029, je ne sais pas. Mais...
En fait, cet album a l'âge de mon petit garçon. Donc, j'ai été beaucoup plus pris et j'ai mis plus de temps à le faire. Mais aussi
tout
parce
simplement.
qu'on est beaucoup plus... On devient plus mature et plus en plus exigeant. Donc, on met plus de temps à faire des choses, en fait.
Sur quoi vous vous attardez particulièrement quand vous êtes en studio, par exemple?
Oh, les voix. Les textes et les voix.
Ok. C'était où l'enregistrement de celui-ci? Du coup, c'était au studio Sauvage.
Alors, tout ce qui est basse batterie, on l'a fait dans un studio qui s'appelle le studio Sauvage, qui est à côté de Montauban de Bretagne, tenu par Johan, mais je ne connais pas son nom.
Johan Ferré, qui joue dans Surnage, mais qui avait d'autres groupes avant, mais notamment Surnage en ce moment.
Ténèbres aussi, peut-être, non?
Ouais,
je sais plus.
Voilà, moi je connais surtout Surnage, et il avait un groupe avant, mais le nom m'échappe, qui jouait un peu plus, mais voilà, je ne me souviens plus du nom.
On le salue, hein. Salut Johan.
Salut Johan.
Et à la suite, on l'a enregistré chez moi, en fait, dans mon petit studio, une cave, ou je sais pas, appelle ça comme tu voudras. Et c'est mixé ailleurs, parce qu'on ne sait pas faire ça.
Vous avez enregistré quoi au studio et quoi chez toi?
Basse batterie au studio et tout le reste chez moi.
Juste par Parce que manque de place, tout simplement, basse batterie, au niveau du son, qu'est-ce qui a fait que vous avez dissocié les deux?
On ne peut pas enregistrer des basses batteries nous-mêmes, on n'est pas autonome parce qu'on n'a pas assez de matériel.
Ouais.
Mais en fait, par contre, dès qu'on doit enregistrer piste par piste, en fait, on est autonome. Et du coup, et pourquoi on fait ça? Bah parce qu'on aime bien faire et refaire, défaire, et refaire, tout casser. Voilà.
Vas-y, non, Xavier,
c'est vrai qu'il y a peut-être une question un peu de manque de temps. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait tout faire en studio. Peut-être qu'on le ferait, pas à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est cool de pouvoir faire soi-même chez soi. Mais là, avec les cordes, les différentes prises de voix, de guitare, ça aurait été vraiment beaucoup, beaucoup trop cher. Et c'est vrai que depuis le premier EP, on a tout enregistré un peu en live sur bande, comme on faisait avec Sunless of Stars. Et puis à partir du premier album, pour ces raisons un peu économiques, on a fait ce fonctionnement-là dont vient de parler Pierre-Marie. Et je pense qu'on a changé un peu la manière d'écrire les morceaux, puisque avant, on faisait tout en répète. Et une fois que voilà, les morceaux étaient bouclés, on allait les enregistrer en studio. Et là, les gars, la guitare, ils peuvent changer un petit peu jusqu'à la dernière minute, tester des trucs en enregistrement, enlever, retirer. Chose que tu peux moins faire en studio, enfin à moins d'être justement extrêmement riche, parce que tu peux pas passer comme ça, revenir trois jours après sur un truc genre ah ben non j'ai réécouté chez moi, tiens je vais refaire. Non, c'est vraiment beaucoup beaucoup trop cher.
Et ça se passe comment la compo dans le groupe de The Soap Opera? J'ai l'impression que ça se passe vraiment autour de Valentin et de Pierre-Marie, mais après comment Michel et Xavier vous intégrez les compos, comment ça se passe tous les quatre?
Moi je dirais bah oui, c'est les deux compositeurs sont Valentin et Pierre-Marie. Après c'est vrai qu'on répète beaucoup, donc il y a plein de trucs qui s'affinent en fait, donc soit pour les lignes de basse, lignes de batterie aussi, voilà, donc sur cette base, sur les morceaux préexistants, ben on voilà, en fait petit à petit on va faire polir un peu la chanson, surtout avec au niveau de la section rythmique, voilà, pour après pour en arriver au résultat que vous connaissez peut-être si vous avez écouté les disques.
Bah, moi, me concernant, en gros, il y a des types de morceaux où Pierre-Marie et Valentin, quand ils composent, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Genre, quand est-ce que commence la batterie, quel genre de rythme faut que je fasse, est-ce que c'est plutôt sur le charlet ou là. Enfin, ça peut être très, très, très précis. Et du coup, moi, je m'y plie volontiers parce que c'est vraiment un peu les idées de la personne qui a créé le morceau. Et je me dis que, enfin, voilà, après, je peux suggérer un truc, mais. En gros, je m'y plie. Et puis parfois, c'est un peu plus libre. C'est genre, il va y avoir une idée du tempo, une idée du type de rythme. Et après, il me laisse faire un peu ce que je veux, puis il corrige. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est très, très écrit. Mais moi, je me plais assez bien dans cette forme. Et souvent, ça me fait découvrir des nouvelles façons de jouer ou des rythmes auxquels je ne viendrais pas naturellement, enfin tout seul, quoi, comme ça.
Et ça se passe, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, pour continuer un peu dans cette idée, moi j'aime bien écrire dans des petits passages à l'intérieur de quelques secondes de musique, avoir des effets un peu tutti, comme on parle de tutti au jazz, c'est-à-dire un moment où tout le groupe joue un peu sur les mêmes accents, soit harmonisé, soit dans une espèce d'unisson, même avec la batterie et la basse, tout le monde ensemble. Dans ce cas-là, dans ces moments-là, je vais écrire vraiment des partitions de batterie un peu figées, mais pendant quelques secondes. Après, pendant le reste du morceau, c'est un peu plus libre, évidemment. Xavier fait un peu ses petits roulés au fromage qui sont un peu sa spécialité, voilà. Mais effectivement, j'aime bien ces côtés tutti, et donc écrit à la batterie, à la basse et aux guitares.
Et ça se passe comment finalement? Parce que là, c'est un album, il y a 10 titres, vous les avez composés à 4 mains finalement, et on se rend compte que c'était peut-être pas voulu, mais c'est 5 et 5 chacun. Je sais pas si c'était voulu ou pas, vous avez vraiment fait la moitié chacun. Et comment vous arrivez à être logique, que ça soit assez harmonieux entre vos différents titres? Parce que là, vous êtes en plus clairement deux chanteurs, deux voix différentes. Comment vous pensez à tout ça en fait?
Alors, première partie de la question, il y a 5 morceaux par compositeur, mais. C'est pas du tout un deal, hein. ça s'est fait comme ça
par
d'ailleurs,
hasard.
D'ailleurs, à la base, il devait y avoir 6 morceaux de Valentin et 4 de moi, et finalement, il y en a un lui qui lui plaisait plus du tout. Du coup, j'étais tenu d'en faire un cinquième. Je pensais que j'avais moins de travail que prévu. Et donc, c'est pas du tout dealé, ça se passe comme ça. Et après, sur la deuxième partie de la question, je répéterai ce que Valentin avait dit, un truc pas mal. Il disait qu'en fait, qui donnait la cohérence des deux écritures, c'est que on est contraint par l'autre. Comme il a fait cette chose là bah faut que je fasse un truc un peu différent mais un peu dans la même veine. En fait, ça nos compos se nourrissent comme ça, et le fil conducteur se trouve peu à peu de cette manière-là, enfin, je crois.
Et vous connaissez depuis combien de temps tous les deux en fait ?
La formation de Solène Dust of Stars, c'est 2009, on se connaissait déjà un petit peu avant, ça doit être 2008. Ça fait 15 ans qu'on se connaît.
Ok, et ouais. Votre relation musicale, elle continue de se développer ? Enfin, vous continuez de vous surprendre un peu ou alors vous connaissez par cœur ?
Je pense qu'on a pas mal bougé parce qu'on a joué dans plusieurs groupes, trois groupes, et à chaque fois c'était dans des genres très tranchés, très. On va dire des lignes esthétiques assez fortes pour chaque groupe, mais très différents quand on passait d'un groupe à l'autre, parce qu'on a fait de la Blue Eyed Soul, très 60s, on a fait du rock psychédélique un peu plus. Alors j'aurais du mal à dater d'ailleurs, on sait pas trop. Mais bon, en tout cas, la question était est-ce qu'on arrive à surprendre ? Bah oui, parce que finalement, à chaque fois, on a comme si on avait un nouveau décor. Enfin non pas un décor, mais
vous apportez des choses venues de vos projets.
C'est plutôt des nouvelles possibilités. Tu vois, il y a des trucs qu'on peut. Moi, j'avais écrit pas mal de chansons pour notre ancien groupe, Solène Dust of Stars, mais à chaque fois, elles étaient un peu recalées en disant bah non, ça c'est trop pop, on va pas faire ça. On a un groupe, groupe de rock. En fait, on n'était pas du tout un groupe de rock, mais on avait l'impression que on était voilà. Bon, bref. Et donc cette chanson, c'est l'idée. Ah, on a un nouveau groupe, on va pouvoir faire plein de trucs nouveaux qu'on pouvait pas avant. Et avec cet album, cet album-là, il y a aussi ce côté « Ah, mais cet album-là, on va un peu… » J'ai l'impression que c'est un peu plus varié, plus libre que les deux premiers disques. Et il y a un peu ce côté récré, quoi. Ah, qu'est-ce qu'on peut trouver de complètement nouveau à faire ?
Bon, Pierre-Marie, tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou...
Non, je pense que c'est assez complet.
On va écouter un petit disque avant de vous retrouver en live dans quelques minutes. Donc c'est un artiste, un groupe, je ne sais pas trop, choisi par vous, messieurs, par Valentin en particulier, je crois. Donc ça s'appelle Happy End, et le nom du morceau, je veux bien que tu le prononces, Valentin, ça m'aidera.
Je n'ai pas une très bonne prononciation, mais je crois qu'on dit Fulaibu. Fulaibu, c'est du japonais. Voilà.
Et pourquoi eux ?
Eh bien, d'abord parce que j'aime bien le morceau. En plus, c'est Happy End, c'est l'un des premiers groupes, pas le premier, mais un des premiers groupes de Haruomi Osono. Vous connaissez sans doute par ses nombreux autres alias, notamment dans Yellow Magic Orchestra et sans doute d'autres. Je ne connais pas tous ces groupes.
Si je ne dis pas de bêtises, il y a un très très beau morceau d'Happy End dans la BO de Lost in Translation.
Ah, eh bien c'est possible, je ne sais pas. Là c'est tiré de leur deuxième album, donc 73. Et c'est assez marrant d'écouter les groupes de ce mec, parce qu'il est... Ouais, pareil, il aime bien passer un peu du Coq à l'âne en fonction des groupes et des albums. Il fait des trucs plutôt rock'n'roll au début, après des trucs plus funky pop, après il est passé à la synth pop, et, etc., à l'exotica. Enfin, à chaque fois, il déborde d'idées, c'est impressionnant.
T'as eu l'occasion de le voir en vrai, en concert ?
Eh bien, non, pas du tout.
Bon, ben, on va l'écouter, faute très de bien. Mieux. Et puis on se retrouve juste après avec The Soap Opera en live dans Purple Rain. À tout de suite.
Fly, 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 fly.
Et bien ce soir, nous recevons The Soap Opera pour la sortie de leur nouvel album Back on Tracks. Back on Tracks, pardon. Et on va écouter un premier titre, Rise and Fall of Teenage Hooper, qui sort, je crois, bientôt en clip. C'est quand vous voulez, les gars.
On est en direct et c'est The Soap Opera, nos invités ce soir, qui interprètent quelques morceaux extraits de leur dernier album sorti le 9 juin dernier, Back on Tracks. Et tout de suite, c'est Who Ate the Last Funny Oreo?
But that's the real sound. They hang around in their dressing
says we're happy, we both stay.
Vous écoutez toujours Purple Rain sur Canal Bleu avec nos invités de ce soir du Soap Opera en live. On écoute tout de suite un nouveau titre, Golden Spring, S-A-S, on dit S-A-S, je ne sais pas, quand vous voulez.
Golden Springs, SAS, c'est le nom de ce morceau qu'on vient d'entendre en direct sur Canal B et que vous pouvez réécouter aussi sur l'album de The Soap Opera. Il y a dessus des cordes magnifiques, on en parlera peut-être juste après. Il reste un morceau qui s'intitule Sword Fight at the Beach House. We'll be right back. C'était The Soap Opera en direct sur Canal B dans Purple Rain. Merci beaucoup les gars pour ces quatre morceaux. Extrait donc de Back on Tracks, le dernier album sorti il y a quelques jours. Et en fait, c'est intéressant d'écouter les deux parce qu'il y a des choses qu'il y a sur l'album qu'il n'y a pas en live et inversement. Et je crois me souvenir que sur ce dernier morceau, sur l'album, il y a un synthé un peu, moi qui me rappelait un peu Métronomie, des trucs comme ça, mais et qu'il n'y avait pas là, vous l'avez bien remarqué.
Il y a de la matière en plus sur cet album, comme tu disais, il y a du violon aussi, enfin il y a des arrangements qui ont été faits d'ailleurs par quelqu'un qu'on connaît, je crois, Ronan.
Mais dès qu'il y a des violons quelque part à Rennes, Ronan n'est jamais très loin.
C'est le spécialiste peut-être.
J'ai l'impression, il a ses contacts.
Oui, mais après lui fait pas trop des arrangements pour le rock.
Ah.
Et bah là, il l'a fait en tout cas.
Mais est-ce que c'est du rock? Bah on a dit que c'était de la pop.
Ouais.
Enfin, je sais pas, Michel, tu nous contrediras peut-être. C'est du rock ou c'est de la pop?
Je dirais entre les deux. Une figue mi-raisin.
Mais comment ça s'est passé ces enregistrements de violon et enfin de cordes? Ils sont loin, je pense. Ils sont pas venus jusqu'à chez vous. Vous les avez pas rencontrés en vrai, si?
Alors, en fait, tous les cordes ont été réalisées par une seule personne, une violoncelliste qui s'appelle Natalia Bolbon, et qui a fait tous les arrangements. Ronan s'est arrangé pour que le quatuor respecte la tessiture du violoncelle. Du coup, on a fait. Si on l'a fait venir jusqu'à chez nous, mais toute seule.
Ah ok, parce que ouais. Parfois on a des groupes qui nous racontent que, bah c'était, je sais plus c'était, qui c'était, les Bobs peut-être bien, qui nous racontent que c'est enregistré en Bulgarie ou en Roumanie. Et
ah
que,
c'était quel groupe hein?
C'est le Philharmonique de Sofia.
Sofia, ouais, c'est, ouais. C'est de eux dont on c'est parle eux, régulièrement. Ouais.
Mais parce qu'en fait, tu connais l'histoire?
Bah pas trop.
Non, mais en fait, l'arrangeur qui a travaillé pour les Bobs, en fait, travaille aussi à d'autres jobs d'arrangeur. Et en fait, en général, quand ils vont faire des sessions, ils vont enregistrer. Alors, je sais plus, j'ai un doute. Je sais plus si c'est le Philharmonique de Sofia ou Budapest. En tout cas, c'est le Philharmonique le moins cher d'Europe. Et du coup, ils vont tous là-bas enregistrer. Et il se trouve qu'il avait enregistré tout ce qu'il avait déjà à faire. Et qu'en fait, il avait une demi-heure de battement avec un orchestre symphonique à sa disposition. Il en a profité pour faire les cordes pour l'album des Bobs. Et du coup, il a sur l'album des Bobs, moi j'ai entendu le morceau. Il y a du coup, c'est énorme quoi, c'est un philharmonique quoi. Du coup, c'est un quatuor, c'est tout petit à côté.
Et ça vous a donné envie, du coup, là ça apporte aussi plus de matière à l'album, des cordes, après il y a du synthé, etc. Ça vous donne des envies pour peut-être la suite d'y ajouter encore plus de choses?
On est prêt pour le Space Opera, hein.
Au taquet.
Space Opera Rock.
Une fois qu'on a goûté à ces choses-là, c'est compliqué d'y revenir. On a envie de faire des arrangements. Et c'est vrai que c'est quand même vachement agréable d'avoir un album avec des couleurs et des textures différentes selon les morceaux. Je pense que je pense qu'on fera. Plus ça va aller, plus ça va être comme ça, je pense, ouais.
Vous êtes déjà en train d'écrire la suite? Vous êtes dessus, il y a déjà des morceaux un peu dans les boîtes?
Ouais, carrément. Ouais. Là, en live, souvent, on rappelle, on fait un morceau qui est vraiment tout nouveau. Et puis, comme le disait Pierre-Marie tout à l'heure, c'est un peu un hasard que là, il y a 5 morceaux de Valentin, 5 morceaux de Pierre-Marie. On en a en plus qui ont été enregistrés, qu'on n'a pas eu, enfin voilà, qu'on n'a pas fini, mais qui seront pour le prochain. Donc on a déjà des choses.
Même là, en live, hein, vous êtes organisé. Hein. 2 morceaux de Pierre-Marie, 2 morceaux de Valentin. Ah ouais, vous divisez toujours.
Un peu quand même, parce que si. Aussi.
Là, c'est voulu, ouais. C'est quand même, ça serait un peu abusé. De...
Le disque, alors, il est en version physique, il existe en vinyle, par exemple,
ou pas? Il est en CD et en vinyle, ouais.
Et il est sorti chez qui, du coup? All In Banana ou Banana. Apple Play?
Alors, l'album, là, n'est sorti que sur All In Banana.
D'accord. Il y avait des précédents qui étaient sortis chez Apple Play, non?
L'album d'avant était une coproduction Apple Play Records et All In Banana.
Et pourquoi vous avez choisi de retravailler avec All In Banana alors?
Eh ben, c'est surtout qu'on a... Déjà, on était très contents que ça continue, c'est-à-dire qu'on signe pas de contrat, hein. faut pas que les auditeurs et auditrices imaginent qu'on a des contrats pour 3 albums.
3 albums.
Non, c'est vraiment un peu gentleman agreement, comme on dit. En fait, on reste en contact avec lui une fois qu'on a sorti un album. Donc là, c'était, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, c'était un sacré bail, hein, c'était en 2017. On reste en contact, des fois, il nous fait jouer à Paris parce que Tom, à côté, c'est pas son métier, hein, il en vit pas de son label, hein, un peu comme nous, on vit pas de notre musique. Il est programmateur dans des salles parisiennes. On reste en contact. Et puis quand on a des nouvelles choses à lui faire écouter, c'est la première personne en dehors des cercles très amicaux, restreints et tout, à écouter. Et du coup là, il a très vite été partant. En fait, moi je trouve son label, il est vraiment admirable. Hein. C'est né d'une envie très très garage, un peu de niche. Et puis il a fait évoluer ça avec un spectre. Maintenant, bon, ça reste quand même de la musique à guitare et de la pop, on va dire, au sens très large, mais il a beaucoup de choses très différentes. Et pourquoi ça sort pas sur Ample Play Records, c'est que ce label donc londonien fondé par le chanteur de Corner Shop, c'était un peu ouvert dans les années 2010-2015, là avec le Brexit et puis... Enfin, c'est un peu compliqué. Et en fait, maintenant, ils se sentent vraiment sur les sorties de Corner Shop et ils sortent pas d'autres artistes.
T'as dit tout à l'heure que vous viviez pas la musique. Vous avez jamais cherché à être intermittent ou
Alors chercher, il faudrait définir chercher.
Non, mais je veux dire, non, voilà, faire des dates, avoir ses 43 cachets.
Ouais, non, on n'a pas, on a pas entre, enfin, je parle vraiment pour moi. Hein, là, il faudrait que les autres répondent aussi parce que c'est vraiment très individuel. Mais moi, j'ai pas entrevu la possibilité des 43 dates. Enfin, depuis que je fais de la musique, même avec Sunnyness of Stars, j'avais joué dans un groupe un peu synth-pop qui s'appelait Splashwave avant. Je me suis jamais dit ah ouais, là, ça peut le faire. Et par contre, collectivement, on peut se dire qu'on n'a jamais fait le choix un peu, comment dire, audacieux, hein, que certains groupes font, de se dire non, mais cette année, on fait que ça, justement. On se démerde pour être au chômage au même moment, on se met à fond, et peut-être que justement, le sésame sera obtenu des 43 dates avec cachet qui ensuite fait enclenche le fait que bah, l'année d'après, t'as encore le temps et tout. Ça, on ne l'a jamais fait collectivement.
Mais vous l'avez jamais fait, pas par souci de « Ah, si on devient intermittent, c'est on va devenir des pros et notre musique, elle va être chiante. » C'est vraiment plus par...
Moi, je me suis pas dit ça, en tout cas.
Moi, je pense quand même que le fait d'être intermittent, il y a quand même cette carotte des 43 prestations tous les 10 mois maintenant, c'est ça ? Et que quelque part, on finit par accepter et faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on était totalement libre. Et si on n'avait pas besoin de la musique pour manger et payer le loyer. Et moi, en fait, plus ça va, bah après on rentre un petit peu dans l'âge aussi, mais par exemple là, si on me proposait de devenir intermittent, ça ne m'intéresserait pas du tout. Je voudrais juste continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est plus je crois que les sub-opéras, c'est plus un truc d'esthète, que c'est pas un groupe en voie de professionnalisation, quoi. C'est clairement pas, quoi.
Et vous faites quoi dans la vie à côté? Juste par curiosité.
On fait un tour de table. moi, je suis bouquiniste. Voilà.
Moi, je bosse dans les énergies renouvelables. Voilà.
C'est le king de l'électron vert.
Ouais, le king de l'électron vert.
Moi, je travaille pour le festival des transmusicales à Rennes.
Et moi, je vis d'expédient.
Faut pas trop chercher à savoir ce qu'il fait. Ça pourrait être retenu contre vous.
Je dessine aussi des affiches pour le groupe, mais de manière complètement non rémunérée.
Ouais. Est-ce toi qui as fait le visuel de l'album Back on Tracks ou pas du tout?
Pas du tout, non.
Qui l'a fait?
Un artiste.
Que le nom de la signature est un petit peu mystérieux.
Énigmatique, ouais. C'est un artiste costa-américain qui s'appelle David Le Trust et il signe sous le nom de AI Le Trust. Voilà.
Ça pose question en ce moment, oui. Une signature comme ça, de dire comment ça a été fait. Tout
ah
ça.
Oui,
c'est pour ça.
Tu t'es dit que c'était une intelligence artificielle qui s'appelait Le Trust, une intelligence artificielle bretonne.
Ah, c'est ça.
c'est vrai, j'y ai pensé un moment. Non, il a juste. Il a fait ce truc que personne ne fait, tout le monde enlève les voyelles, genre le groupe Suburbs, le groupe Mankens, le groupe Brains. Et bah lui, il a enlevé les consonnes, il a gardé que les voyelles. C'est un peu plus chiant à dire, mais voilà.
Okay.
Et ce pont qu'on voit sur la pochette, il relie quoi? C'est quoi les deux rives, le rock et la pop? C'est ça.
C'est Rennes et Liverpool, voyons.
Ah mais oui, Rennes et Liverpool.
Je crois que t'as répondu. Hein.
Mince, pardon, je fais les questions et réponses.
Bah, non, mais c'est bien, c'est super, c'est top. Continue comme ça.
Et du coup, c'était quoi la réponse?
Ça a joint le rock et la pop.
Ok.
Non, t'es déçu, Kat, par la réponse.
Non, j'avais pas entendu, du coup, c'est pour ça.
Ah. Non, mais toutes les réponses sont un peu acceptables. Hein.
Très bien.
Il y a eu un clip pour Who Ate the Last Funny Oreo en dessin animé, mais vraiment à l'ancienne. Enfin, je sais pas si c'était au bic ou quoi, mais la personne qui a fait ça s'est beaucoup amusée.
Ouais, alors c'est une technique qui s'appelle l'animographie, je crois.
L'animographe.
Ouais.
Qui a été inventé par la personne qui a fait les Shadowhawks et tout. C'est un peu ces années-là, les années 60.
La Linéa aussi, non? Je sais plus.
Peut-être aussi.
Ouais.
Il y a un nouveau clip qui va sortir, non?
Oui.
Bientôt. Très bientôt.
Tout bientôt, du premier morceau qu'on a joué tout à l'heure en live, Rise and Fall of a Teenage Hooper, tourné par nos soins dans un chaos rocheux breton. Donc ça sera un style très très différent.
Très bucolique.
Très bucolique, ouais. Mais c'est vrai que pour en revenir au clip de Oreo, c'est un réalisateur qui s'appelle Rémi Richarme, qui est également musicien. C'est un mec très très talentueux. Il joue dans Satellite Jockey. Je sais pas si ce groupe existe encore, mais c'est très bien. Ils ont fait pas mal de disques. Et il joue également dans Fat Dat. Ça s'écrit PHAT, Fat Dat. Hyper bien. Ça joue aux dernières transmusicales, justement. Et en fait, on est allé vers lui parce qu'il avait fait des clips pour pour ces groupes très animés, très colorés. On trouvait que ça collait vraiment bien. En fait, on savait qu'il fallait faire des clips. On n'est pas, on n'a pas des masses de. C'est pas quelque chose qu'on a fait beaucoup. On n'a pas un univers visuel au-delà des pochettes extrêmement développé. Et ça nous a tous plu. Au départ, on allait plutôt vers lui pour la couleur. Or, ce clip, justement, il n'est pas extrêmement coloré. Parce qu'entre-temps, il a changé d'avis. En fait, en écoutant le morceau, il le trouvait très. Enfin, il trouvait qu'il y avait plein de choses, plein d'événements dans la compo. Et donc, du coup, il disait il ne faut pas trahir ça. Et justement, avoir une animation qui est pareille, faite de plein d'événements, sans redite, sans boucle. Du coup, il a tout dessiné à la main. Il y a 1380 dessins, je crois, à peu près. Mais par contre, c'est en effet un peu à l'ancienne, c'est un peu saccadé, parce qu'il n'y a évidemment pas 24 dessins à la seconde comme dans les dessins animés pro. Parce que là, il aurait fallu qu'on embauche une usine sud-coréenne, ou plutôt nord-coréenne, ça aurait coûté moins cher. Et lui, non, il est à beaucoup moins d'images secondes, donc ça donne ce petit côté saccadé, mais ça nous a vachement plu, et moi, j'étais hyper content que surtout ça plaise à tout le monde dans le groupe.
Bah, on était hyper ravis, je l'ai regardé 40 fois de suite, je suis tellement content, c'était super.
Et puis c'est vrai que cette technique permet aussi d'avoir des angles de vue complètement choisis, quoi. Et donc ça c'est cool, ça donne quelque chose de super dynamique du début à la fin.
Avec des plans séquences de malades.
Avec des plans séquences de malades.
On vous reçoit après vos deux releases. Vous avez fait votre release au Market Sad vendredi dernier, au Supersonic samedi à Paris. Ça s'est passé comment ?
Ça s'est très bien passé. On a eu du monde et on a vendu des disques.
Un bon ressenti. Le
principe d'une release party.
C'est ça ?
Ouais.
Il faisait pas trop chaud ?
Si, beaucoup trop.
On va pouvoir vous revoir à Rennes ou pas trop loin prochainement ou pas ?
Ouais, carrément. Les prochaines dates dans le coin, c'est le 4 août pour un festival qui a l'air très très cool, qui s'appelle Le Chant du Tombereau à Derval, donc entre Nantes et Rennes, avec du beau monde, parce qu'il y a Bilbil, il y a Sir Edward, enfin il y a vraiment des groupes assez cool. C'est un festival qui fait son petit bonhomme de chemin, je pense qu'ils en sont bien à la 4e édition. Et puis surtout à Rennes le 15 septembre pour I'm From Rennes, on est très très content d'y avoir été programmé au Tabor sur la scène, je pense que c'est l'Enfer, je me souviens plus comment ça s'appelle cet endroit.
Ça s'appelle la scène Simon Carpentier maintenant.
Okay, à l'Enfer. Pour I'm From Rennes,
tout à fait. Ouais.
Simon rigolo comme nom.
Ouais. Bah ouais, mais c'est quand même un bel hommage. C'est vrai qu'il a fondé ce festival à l'époque. Et voilà, ça c'est. Après il y a d'autres dates, mais en Normandie puis un peu plus loin après en septembre à Saint-Malo.
On essaiera de vous suivre et puis d'annoncer les dates dans le coin.
Exactement.
Quand on les verra. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir joué ces morceaux en direct à la radio. C'était très cool.
Merci
beaucoup
à vous, pour l'invite.
Merci.
Et on se quitte avec quelques idées sorties. Kat, vas-y, c'est à toi.
Oui, il y a la brasserie Scumène qui fête ses 8 ans ce samedi. Donc il y a la visite de la brasserie, il y a des jeux, il y a des concerts, etc. C'est dans la Zadie Sud-Est, vous prenez le bus 11, vous allez y arriver. Et il y a notamment Paperwhite pour continuer un petit peu dans la pop infusée british de ce soir. Voilà, donc ça tombait plutôt bien. Paperwhite a aussi sorti son album Shaolin Banana, donc on est dans la famille.
Camarade de label, tout à fait.
Voilà. Ce samedi.
Ok, de mon côté j'ai noté que demain soir au Bistrot de la Cité il y avait Denner qui ouvre pour un groupe anglais que je ne connais pas, Holy Pops. Mais voilà, Denner on les avait reçus pendant le confinement
à l'Overlook, tout à fait.
Et j'en garde un bon souvenir dans un style un peu cold wave avec cette voix, qui vient, qu'on a l'impression qu'elle vient d'Outre-Manche un peu, mais non, en fait, elle est des Côtes d'Armor, je crois, à quelque chose près. Voilà, et il y a aussi plus loin, mais si vous avez envie de voyager, le festival Jazz à Gomenay, qui est quelque part en centre-Bretagne, dans les Côtes d'Armor, au milieu, là, par là. Et il y a pas mal de trucs chouettes, c'est un peu loin, mais il y a notamment Johan Minkoff et d'autres trucs que je connais pas, mais ça donne très envie. Voilà. J'ai parti ranger le matos. Décidément, on t'exploite. On se retrouve la semaine prochaine ou pas, Kat ?
Tout à fait, avec Henri pour la réédition de leur premier EP Panorama. Donc voilà, ça va être une émission plutôt à la sauce Mogwai, on va dire, hein, post-rock. Donc ça va être sympa.
Bon voilà, et on lâche pas parce que jusqu'au 12 juillet, on est là.
Ah ouais, 12 juillet, normalement, on refait une dernière émission où on invite une autre émission de Canal B. On ne vous en dit pas plus pour l'instant, tant que tout n'est pas validé, mais on y tient, on va la faire.
On croise les doigts.
C'est ça.
Merci de nous avoir écoutés, à la semaine prochaine, salut.
Salut.
the monopole. You've never sounded so silly, you've never looked so loomy since you so got in the gravy. I bet I met a wish and you didn't wash the dish. Say cinnamon and thyme. If you wanna marry Magdalene, in your eyes pulling, don't forget the mole. If you want a saturine, mind if it starts to clone. Jesus can't belong. You've been shaving, you've been wondering about a high recipe, some kind of theory. Since you so got in the gravy, oh, what a brother cook, I guess you have the hook. Sprinkle away the icing sugar. If you want a dimmer rain sample in your pastry, mind if it starts to brew. Jesus can be slain. God is a question of key mastery. Is it easy, just a recipe? God is a matter of posology. God is a matter of both of you.